Cours de métaphysique sur la personne, 27 janvier 1984, Rimont.
Alors continuons cette recherche de topics historiques pour essayer de saisir comment, après la perspective hegélienne, saisissez avant tout les grands axes, je crois que c'est ça qui est important. La grande montée sur la personne jusqu'à Saint-Amand. Je crois que Saint-Amand représente vraiment, dans ce domaine de la personne, quelque chose de particulièrement important, le lien de la nature et de l'esprit. Ça, il faut y réfléchir, parce que c'est le mieux. C'est le mieux. Il n'y a pas à dire. Alors, ce nœud, on le comprend dialectiquement ou on le comprend en profondeur par un point de vue métaphysique. Et sûrement, ce qui a permis à saint Thomas d'unir la nature et l'esprit, c'est le point de vue métaphysique. Il ne le dit pas parce qu'il est théologien. Et si nous servons saint Thomas et que nous essayons de réfléchir à ce problème de la personne au point de vue philosophique, nous verrons que c'est ça. Alors c'est intéressant de voir que saint Thomas, dans une tradition, avec Boès, quand même Boès qui a voulu donner la définition de la personne, arrive à cela. Puis alors la chute verticale avec Occam, ça c'est sûr. Puis alors ensuite, comment on arrive à reprendre le problème de Descartes à Hegel. C'est quand même toujours un peu ça. Hein. Descartes à Hegel. Il y a une continuité de Descartes à Hegel en passant par Kant. Hein. C'est quelque chose de particulièrement difficile. Alors, je ne reviens pas sur la position hegélienne de la personne, c'est très difficile. La personnalité. Mais c'est intéressant de voir que la nature disparaît, qu'il ne reste plus que l'esprit. Et quand il ne reste plus qu'esprit, il reste l'idée. Alors il y a l'idée de la personnalité. Et qu'est-ce que c'est que cette personnalité dans le concept de personnalité? Parce qu'au fond, dès qu'on est dans la personnalité, c'est nécessairement le concept. Alors on a une espèce de vision tout à fait particulière, je ne dirais pas d'intériorité, parce que ce n'est pas l'intériorité véritable, mais c'est la subjectivité transcendantale continue de dominer et qui absorbe l'être. L'être est absorbé par la subjectivité transcendantale. Et là, on tombe dans cette vision de subjectivité du concept de la personnalité. Alors, après Hegel, comme toujours, on tombe dans les marécages. Au fond, la philosophie, après Hegel, est dans les marécages. Alors, chercher dans les marécages la génération spontanée de la personne. Hein. Parce que c'est bien ça, le soleil qui chauffe. Alors je vais prendre simplement avec vous, parce que dans les marécages, il ne faut pas y rester trop longtemps. Mais c'est intéressant de voir quand même ce que ça représente. La preuve de la personne est peut-être la seule chose qui reste vivante de la philosophie. Je croirais assez volontiers. C'est la seule chose un peu qui demeure. Alors voyez, je vais simplement ponctuer ce que j'ai essayé de faire dans ce topic. De ponctuer, c'est difficile, hein? C'est très difficile de bien saisir ces différents aspects de la personne. Alors la personnalité synthèse du soi et du non-soi. Chez Renouvier, la loi de la personnalité et la dernière catégorie, la dernière chose qui demeure, hein, dans le marécage. Après Hegel, c'est vrai, Hegel c'est fameux, hein. Il faut bien comprendre que c'est difficile de faire de la philosophie après Hegel. Et on sent très bien, que la philosophie aujourd'hui, pour la plupart des personnes, c'est une idéologie hegélienne avec la dialectique. Et on est tous empoisonnés par ça. Il faut essayer de découvrir ce poison qui se généralise en nous et qui dissout la nature. La nature est dissoute. On sent bien cela. Vous voyez, la personnalité synthèse du soi et du non-soi, c'est vraiment quelque chose qui ne reste plus grand-chose. Alors, la loi de la personnalité est la dernière catégorie qui embrasse toutes les autres, et particulièrement au point de vue de l'homme. Elle se présente ainsi, je vous cite ce passage, « Toute loi étant donnée dans une représentation complète, et nulle part ailleurs, que nous sachions, on peut toujours demander de quel ensemble de phénomènes un rapport quelconque fait partie représentativement. La réponse à cette question est la loi de conscience ou de personnalité. » La loi de conscience ou de personnalité. C'est intéressant parce que c'est conscience et personnalité. On avait déjà vu comment, au fond, la personne se ramène à la conscience. Alors, vous voyez, pour tout le problème de l'avortement, c'est ça que nous devons voir par derrière, pour tout le problème de ce que représente le respect à l'autre. Donc, la réponse à cette question est la loi de conscience ou de personnalité, ou, pour parler latin, la thèse in quo. In quo referente quo cognoscente, ce par quoi. La seule chose qui reste de la scolastique, hein, le quo, ce par quoi. C'est assez étonnant, mais assez lamentable. Hein. Ce par quoi. Donc la personnalité, c'est ce par quoi. Ce par quoi vous vivez. Donc, au fond, c'est une recherche d'une loi qui remplace la substance. La substance est remplacée par une loi. Donc, un tissu de relation. Vous savez, quand Merleau-Ponty dira que l'être est un tissu de relation, c'est exactement ça. Donc, c'est une loi. L'être est une loi. Un tissu de relation. Et là, c'est ça le climat dans lequel, de fait, la philosophie aujourd'hui vit. On a perdu la réalité, et alors on est dans un tissu de relations. Parlant de la relation en général, les catégories aboutissent à cette relation la plus particulière de toutes, qui est la personnalité. Bien, le tissu sur lequel on se trouve. Elles y aboutissent après l'avoir constamment supposé, en cela qu'il faut à l'analyse, à l'analyste, à la science, un savant. C'est absolument nécessaire. C'est ce par quoi tout le reste existe. La condition sine qua non par laquelle tout le reste existe. Voilà la personne. De toute notion, de tout jugement, de tout objet représenté dans l'espace ou dans le temps, on peut demander en qui il se manifeste. Enfin, la matière de la connaissance est marquée du sceau du connaître sous toutes ses formes, c'est-à-dire modelée sur les lois de la personne en qui seules des représentations sont données. La personnalité, donc ça va le texte, je réfléchis un instant là-dessus. La personnalité, comme toutes les autres catégories précédentes, se détermine à partir de deux formes opposées. En l'occurrence, le soi, la tête, et le non-soi, l'antithèse, qui ne sont eux-mêmes donnés que par leur rapport dans le synthèse, inséparable l'un de l'autre, donc dans leur relation. C'est comme le relatif. Le relatif n'existe que par le relatif. Donc le soi et le non-soi s'appellent mutuellement. Et la personne, c'est la synthèse de Dieu. Et la pauvreté. Ça représente, alors, vous voyez ce que c'est que l'intériorité. Vous voyez, dans ce domaine-là, ce que peut représenter la contemplation. C'est la destruction radicale de l'âme spirituelle. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, parce que c'est pour nous, hein, n'oublions pas, il faut quand même voir ça. Alors ça, c'est pas philosophique, c'est théologique. Il faut mettre entre parenthèses, hein. Mettez ça entre parenthèses, ça ne fait pas partie de topic historique, mais ça fait partie de nous-mêmes théologiques sur lequel nous devons regarder les choses. Hein. Nous devons comprendre que ce que le démon veut, c'est de détruire l'esprit de l'homme. Parce qu'il a une haine contre l'âme spirituelle. Il ne peut pas tolérer que l'homme soit lié à Dieu par l'esprit. Il veut que l'homme détruise sa valeur d'esprit. Qu'est-ce qu'il pense ? Comment la fait-il ? Par la dialectique. Ça, j'en suis sûr. C'est sa grande arme. Alors, on arrive à faire que la personne soit uniquement le soi et le non-soi, et la synthèse des deux. Alors, vous avez supprimé ce que c'est que l'âme spirituelle. Parce que quand vous essayez de comprendre ce que c'est que le soi et le non-soi, vous supprimez l'âme spirituelle. C'est ça qui me semble important, vous voyez. Il y a un jeu dialectique, qui est la grimace du jeu de la sagesse. Il y a un jeu dialectique, on se laisse griser par ce jeu dialectique. Et le monde d'aujourd'hui, il est vraiment saisi, séduit par ce jeu dialectique, par cette grimace. C'est la grimace du démon. À la place de l'âme spirituelle, image du Dieu, il y a une grimace, il y a un jeu. Un jeu dialectique du soi et du non-soi. Ça, nous ne pouvons pas le dire au point de vue philosophique, hein. C'est vrai, au point de vue philosophique, je ne peux pas le dire. Parce que je ne peux pas dire, je ne peux pas faire une topique historique avec la lumière de la femme du dragon. Hein. Je ne peux pas faire ça. Mais je peux, personnellement, faire. Tout en faisant de la philosophie, je suis chrétien. Alors, je distingue les deux, et c'est très important de distinguer les deux. Et je sais que le combat dans lequel on est, n'est pas un combat uniquement au niveau humain. C'est un combat en face de puissance spirituelle. Et cette puissance spirituelle, c'est la destruction de l'esprit de l'homme. Et de pouvoir le détruire complètement. Donc cette synthèse du soi et du non-soi, la c'est de lui ça, c'est de Renouvier. La personnalité se détermine par la synthèse d'une limite et d'un intervalle correspondant. Alors, cherchez bien ce que c'est. La personnalité se détermine par la synthèse d'une limite et d'un intervalle correspondant. La limite est le soi. Une sphère et une série de phénomènes posés comme être. La limite est le soi. Une sphère et une série de phénomènes posés comme être, comme acte, comme état, à la manière de la thèse commune des catégories de devenir, de causalité de finalité. L'intervalle. Voilà la thèse, hein, la limite. La limite. Alors, tout y passe. Hein. Tout le langage philosophique antérieur y passe, parce que vous avez l'acte, l'être, l'état, la manière de la thèse commune des catégories de devenir, de causalité, de finalité. La synthèse de l'être, du devenir, de l'acte, tout y est, ça c'est la limite. L'intervalle. Ah, ça, c'est encore mieux. L'intervalle. Qu'est-ce que l'intervalle ? C'est l'intervalle. Abstraction faite de toute limitation par le soi et le non-soi, l'ensemble indéterminé, indéfini de tous les phénomènes autres ou extérieurs, mais liés selon toutes les catégories. Avec les premiers, touchant lesquels il se détermine. La synthèse du soi et du non-soi est la conscience, la personne. identification absolue de la personne et de la conscience. Et comment se fait? Il s'agit de découvrir la naissance de la conscience. Vous voyez, cette recherche, c'est extraordinaire. C'est la naissance de cette conscience, c'est le soi, le non-soi. C'est la limite à l'intervalle. Dit autrement. C'est à partir de là qu'on découvre ce que c'est que la personne. On peut donc dire que la conscience est le soi du non-soi. C'est de lui ça, c'est pas moi. On peut donc dire que la conscience est le soi du non-soi. Et pour ainsi dire, l'un s'est multiple, un tout. Et alors, c'est ça qui me semble très intéressant, au point de vue philosophique. La seule chose qui demeure à travers tout ce langage multiple, il s'agit d'un langage multiple, d'un dialectique, c'est qu'on retrouve toujours l'idée du tout. Parce que la synthèse, c'est une idée de tout. Alors, peu importe les éléments, alors quand vous mettez des éléments soi et le soi, qui donnent le tout, qui donnent la personne. Alors la conscience, c'est le tout, puisque la personne est dans la conscience. C'est le tout. C'est la seule chose qui émerge, vous voyez. Parce que être et devenir, par égal, sont relativisés. Donc deviennent des éléments du tout. C'est intéressant. On sait que pour certains philosophes, d'un point de vue de la métaphysique, c'est le tout. Vous voyez l'origine, hein. Il faut quand même saisir l'origine de tout ça. Et de voir que tous ceux qui disent ça, au fond, n'ont pas dépassé Hegel. Ils sont dans la perspective hegelienne. Dans une perspective hegelienne, la personne ne peut être autre chose que le tout. Saint Thomas dira ça aussi. Hein. Saint Thomas dit aussi que la personne, c'est le tout. Alors, c'est intéressant parce que là, il y a un petit point de contact. Mais le tout de Saint Thomas et le tout hegelien, le tout de Renouvier ne sont pas les mêmes. Mais c'est là où il y a le contact qui demeure. En fait, c'est intéressant, c'est de se demander pourquoi c'est cette notion de tout qui demeure. Pourquoi c'est cette idée de conscience qui demeure. Dans l'objectivité de Saint Thomas, qui considère que la personne s'enracine dans la substance, la personne c'est la substance, et Saint Thomas tient. Et à partir de là, c'est toute la philosophie grecque. Oui, c'est la notion de l'ousia qui demeure, la notion de nature qui demeure. La nature et l'ousia de l'esprit, et dans l'esprit, c'est ça qui demeure, et c'est ça qui est le fondement. Le fondement est complètement relativisé à partir de l'égal. Complètement. Et alors, à ce moment-là, c'est le tout qui demeure. Le tout pour Saint Thomas, c'est, j'allais dire, la manière d'être particulière de la personne. Ça présuppose au fondement. Tandis que là, le tout, c'est quelque chose qui naît. C'est vrai. Parce que c'est dans une dialectique, c'est la séduction de la dialectique. C'est que vous assistez à la naissance. C'est toujours un peu le mythe platonicien de l'origine. Assister à la naissance de l'amour. Assister à la naissance de la personne, découvrir cette personne en vous, la conscience qui naît, et qui naît dans l'opposition, dans l'affrontement. Vous voyez tous les points de vue psychologiques qui viendront après, hein, le psychodrame. C'est égalien. Fondamentalement, c'est égalien. Parce que le psychodrame, c'est vous naissez en fonction d'un autre. Hein. Et c'est vrai psychologiquement, c'est très très vrai. Il suffit qu'il y ait en face de nous un imbécile pour qu'on soit intelligent. Il suffit qu'on soit en face d'un intelligent pour qu'on devienne un imbécile. C'est sûr, ça. Le jour de l'examen, on est en face d'un professeur intelligent, il revient imbécile. On est réduit à ça. Et dans la vie commune, on est devant des imbéciles, on devient intelligent. C'est la dialectique du tout qui se fait comme ça et qui fait comprendre ce que c'est que. Vous voyez, à ce moment-là, il n'y a plus aucune notion objective, C'est toujours la subjectivité transcendantale qui commande tout ça. La subjectivité transcendantale, c'est dans l'ordre de l'exercice qu'elle peut demeurer. Parce qu'il n'y a plus d'objet. La synthèse du soi, du non-soi, est la conscience, la personne. On peut donc dire que la conscience est le soi du non-soi, et pour ainsi dire, l'un de ce multiple, un tout. Renouvier ajoute, reprenant successivement les catégories précédentes, elle est le point limite et l'instant limite de cet espace et de ce temps. Une étendue, une durée, la différence de ce genre, une espèce, puis un individu. L'être de ce non-être, en devenir, l'acte de cette puissance, une force, l'état de cette tendance, une passion. Pour remonter à la première et à la plus générale des catégories, la relation, l'autre de ce même est indéterminé. L'autre de ce même, c'est assez joli. Toutes les catégories, alors c'est intéressant parce qu'on se sert des catégories, vous voyez, comme un schéma qui nous permet de dialectiser les catégories. Alors on dialectise les catégories pour trouver la personne de tout. Bon, je crois que c'est suffisant de voir ça, mais c'est intéressant. C'est pour ça que je voulais citer Renouvier, la retombée hegélienne dans le psychologisme. C'est tellement français, ça. Le français, s'il ne fait pas attention, il tombe toujours dans le psychologisme. Il a marre du psychologisme, tellement. Il est tout le temps dans le psychologisme, tout le temps. Et Renouvier, à ce moment-là, c'est très, très net. Hegel, c'est l'horreur du psychologisme. C'est très curieux, c'est très curieux. Il y a là, entre le génie allemand et le génie français, quelque chose d'assez particulier. Parce qu'il y a quelque chose d'assez net. Au niveau de la personne, ça sent très très fort. Vous allez voir, on va retrouver ça après. La personne, nouvelle par repart, la personne est la conscience se rapportant à elle-même dans son rapport à Dieu. Ah, là il y a quelque chose d'un peu plus. Parce que Dieu réapparaît. Mais Dieu réapparaît. Parce que là, pas du tout. Hein. Renouvier, c'est la laïcisation de l'ontologisme de Hegel. Ça aussi, ça fait partie de l'esprit français. L'esprit français est laïque. C'est vrai, il est laïque. Il aime d'être laïque. Il aime de s'affirmer laïque. C'est d'une façon très curieuse. Alors, pour Kierkegaard, c'est la conscience à proprement parler qui constitue la personne. Donc, vous avez là quand même une constante depuis qu'on a quitté la métaphysique, le problème de la conscience. Alors évidemment, la conscience, elle se situe à des niveaux très différents. Et on voit très bien que la conscience ici est prise d'un point de vue beaucoup plus psychologique, et ici, c'est la conscience religieuse. Kierkegaard fait la conscience religieuse. Kierkegaard reste protestant. Il n'est pas laïque. Il est religieux. Alors voici un passage que je vous cite. La conscience, c'est dans le journal. Dans le journal de Kierkegaard. La conscience intérieure. Ah, et le souci de l'intériorité. Maintenant, le protestantisme, le souci de l'intériorité. La conscience intérieure. Est le facteur décisif. Décisif toujours quand il s'agit du moi. Elle en donne la mesure. Plus il y a de conscience, plus il y a de moi. Car plus elle croit, plus croit la volonté. Et plus il y a de volonté, plus il y a de moi. Un homme sans vouloir, le moi n'existe pas. Mais plus plus il y en a, plus il y a également conscience de lui-même. Vous voyez cette chose très curieuse, hein, ce volontarisme qu'il retrouve à l'intérieur du protestantisme. C'est très curieux. Le protestantisme, initialement, n'est pas un volontarisme, plutôt un fatalisme. Le fatalisme tue la volonté. Alors ça renaît. Très curieux de voir ces choses-là. C'est du reste très intéressant. De saisir l'histoire du protestantisme, ce serait à faire cette année-ci avec l'anniversaire de Luther, n'est-ce pas? Ce serait à faire de voir comment, progressivement, la volonté et l'intelligence qui sont complètement inhibées dans la pensée de Luther, puisque toute la nature est corrompue, l'intelligence et la volonté, comment ça renaît? Alors ça renaît très très nettement chez ce regard. Alors quel est ce moi? Le moi est la synthèse consciente d'infini et de fini qui se rapporte à elle-même, ce qui ne peut se faire qu'en se rapportant à Dieu. Alors, il y a déjà quelque chose d'un peu plus, vous voyez que uniquement renouvelé à l'état pur, sans objet. Ici, on va fourrer l'infini et le fini. C'est pas tellement cette attitude religieuse. L'infini et le fini, forcément, depuis Descartes, ça fait appel à Dieu. Au bout de l'infini, il y a Dieu. Ça, c'est l'ontologie. Au bout de l'infini, il y a Dieu. Alors, le moi, la synthèse consciente d'infini et de fini, qui se rapporte à elle-même. Donc dans une attitude réflexive, ce qui ne peut se faire qu'en se rapportant à Dieu. Le moi, dit encore Kierkegaard, est un rapport, se rapportant à lui-même. Autrement dit, il est dans le rapport, l'orientation intérieure de ce rapport. Suivez bien. Je suis. Autrement dit, il est dans le rapport, l'orientation intérieure de ce rapport. Le moi n'est pas le rapport, mais le retour sur lui-même de ce rapport. Vous avez tous pigé. Petit résidu, hein. C'est pas la relation. C'est très bien dit. Hein. Kierkegaard, c'est toujours de la dentelle. C'est de la dentelle. C'est extraordinaire, ça. Parce que ça, c'est de la dentelle au point de vue philosophique. C'est arriver à découvrir. Ça. On fait des trous pour qu'ils soient des pleins. Alors, c'est ça la dentelle. Le moi est un rapport se rapportant à lui-même. Autrement dit, il est dans le rapport l'orientation intérieure de ce rapport. Le moi n'est pas le rapport, mais le retour sur lui-même de ce rapport. Donc c'est la conscience. La conscience est l'état pur. Et non pas ce qui conditionne cette conscience. Ce qui conditionne cette conscience, c'est le rapport. Pour qu'il y ait conscience, il faut qu'il y ait rapport. Mais ce n'est pas ça qui fait la conscience. La conscience et l'état pur, c'est justement ce retour en lui-même sur ce rapport. L'homme est une synthèse d'infini et de fini, de temporel et d'éternel, de liberté et de nécessité. Bref, une synthèse. Tout à l'état pur. Une synthèse. C'est le rapport de deux termes. Et de ce point de vue, le moi n'existe pas encore. Un tel rapport, c'est toujours lui, hein, je vous cite, un tel rapport qui se rapporte à lui-même, un moi, ne peut avoir été posé que par lui-même ou par un autre. Si le rapport qui se rapporte à lui-même a été posé par un autre, le rapport, certes, est bien un tiers, mais ce tiers est encore en même temps un rapport, c'est-à-dire qu'il se rapporte à ce qui est posé dans le rapport. Il est vraiment saisi par ça. Le rapport, c'est la relation, vous voyez, c'est la relation, c'est l'ordre vers quelque chose d'autre. Un tel rapport, ainsi dérivé, ou posé est le moi de l'homme. J'ai jamais pensé ça. Que votre moi, c'est ce rapport dérivé, posé. C'est un rapport qui se rapporte à lui-même et se faisant un autre. De là vient qu'il y a deux formes de véritable désespoir. Le désespoir le désespoir se condense à proportion de la conscience du moi. Mais le moi se condense à proportion de sa mesure. Et quand la mesure est Dieu, infiniment, le moi augmente avec l'idée de Dieu, et réciproquement, l'idée de Dieu augmente avec le moi. C'est la dernière relation. Et la dernière relation, c'est bien celle-là. Donc le moi, l'état pur, ne peut être qu'un moi face à Dieu. Un moi qui est enveloppé, qui est mesuré par Dieu. Vous voyez l'ontologisme qui existe dans quelque part, c'est ça qui est intéressant à voir. Alors c'est la question qui peut se poser, est-ce que dans une perspective protestante, la seule philosophie possible n'est-elle pas l'ontologisme? Ce que je crois. Ainsi, Kierkegaard dira-t-il que dans le christianisme, le plus important, c'est la personne. Ça, c'est lui. C'est vrai. Ce que diront beaucoup, ce que dira Gilson, hein, quand il dit que le propre de la philosophie chrétienne, c'est d'avoir découvert la personne. La personne, c'est un produit de la philosophie chrétienne. Dans le christianisme, le plus important, c'est la personne. Et la personne telle qu'il la comprend, c'est-à-dire la subjectivité. C'est le moi se rapportant à lui-même, se retournant sur lui-même, à l'intérieur même de son rapport à Dieu. La suprême subjectivité, c'est le rapport à Dieu. Dans la foi, et l'amour qui ne peuvent être que personnels, individuels. Alors ça, je crois que c'est très très important à souligner. Parce que vous voyez, ça rejoint ce que M. Euffet dit à propos de Kant. Kant est plus chrétien qu'Aristote parce que Kant remet en lumière le primat de la subjectivité. Or, le christianisme, c'est une philosophie de la subjectivité. C'est le lien. Et ça, c'est Kierkegaard. Hein. C'est Kierkegaard qui le dit. Alors, vous voyez, Kant, Kierkegaard, Euffet. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Pour voir, pour comprendre. Ça, pour comprendre ce qui se passe. Parce que l'avantage de Kierkegaard, c'est qu'il le dit. Il est ancien, Kierkegaard. Il ne faut pas l'oublier. Ça ne peut pas être impossible autrement. Alors, Kierkegaard dira que dans le christianisme, le plus important, c'est la personne. Là, on est d'accord. Je suis d'accord. Dans le christianisme, le plus important, c'est la personne. Et la personne telle qu'il la comprend, Kierkegaard, c'est la subjectivité. Oui. Alors, nous comprenons ici, et à partir d'ici, l'opposition qui va naître très nettement entre la nature et la personne. Et tout est joué. Parce que la personne, c'est la subjectivité. Parce que la personne, c'est la conscience. Et la conscience, c'est ce rapport, ou plus exactement, c'est la conscience. C'est l'au-delà du rapport. Hein. C'est l'au-delà du rapport. C'est ce qui reste après le rapport. C'est la subjectivité pure, c'est la conscience. Alors la personne, c'est la subjectivité. Et la nature, c'est l'objectivité. Alors, ce que vous retrouverez chez les théologiens modernes, saisir comment ils sont arrivés à cette position. C'est l'opposition entre une morale qui repose sur la nature et une morale de la personne. C'était les grosses questions qui ont secoué Fribourg pendant 10 ans et qui continuent de secouer. Non, c'était ça le problème qui a été vraiment que Fürthner a posé avec force et l'a mis devant tous. Donc l'opposition entre la morale de saint Thomas qui est la morale d'une nature et la morale d'aujourd'hui qui est la morale de la personne. Oui. Alors il faut bien saisir ça parce que si on ne saisit pas ça, on ne saisit pas le débat d'aujourd'hui au niveau moral. Il est là. Alors tout le monde est d'accord que le christianisme est en pleine lumière le problème de la personne. Tout à fait. Quelle personne? Alors vous voyez l'importance de saint Thomas qui montre le lien entre, voyez, la substance et l'esprit. Et la personne, c'est les deux. Alors on a divisé le problème, on a opposé dialectiquement la personne. Alors comment on est venu à cela? Par cette idée du tout, très curieux. Et par le point de vue, évidemment, de la subjectivité, du point de vue de la conscience. Alors, je crois que ça, c'est très important à souligner. Et la personne telle que la comprend Kierkegaard, c'est la subjectivité, c'est le moi se rapportant à lui-même, se retournant sur lui-même à l'intérieur même de son rapport à Dieu, dans la foi et l'amour, qui ne peuvent être que personnels et individuels. Oser à fond être soi-même, oser réaliser un individu, non tel ou tel, mais celui-ci, isolé devant Dieu, seul dans l'immensité de son effort et de sa responsabilité, c'est l'héroïsme chrétien. Et avouons sa rareté probable. L'inquiétude est le vrai comportement envers la vie, envers notre réalité personnelle. Et par suite, pour le chrétien, elle est le sérieux par excellence. En définitive, chez Kierkegaard, la personne se définit par le paradoxe de la solitude radicale de la foi. La foi est ce paradoxe et l'individu ne peut absolument pas se faire comprendre de personne. Un chevalier de la foi, un athlète de la foi, ne peut absolument pas en secourir un autre. L'isolement complet. Ou bien l'individu devient le chevalier de la foi en se chargeant lui-même du paradoxe, ou bien il ne le devient jamais. On voit sans peine l'importance qu'a chez Kierkegaard le problème de la personne, c'est au cœur de tout. Il est assez difficile de préciser philosophiquement comment il la conçoit. Je crois qu'il la conçoit dans ce rapport. Ou, si vous voulez, dans l'au-delà du rapport, dans le quelque chose qui permet le rapport, la condition sine qua non qui permet le rapport. Et c'est ce quelque chose qui est au-delà du rapport, qui n'est pas le rapport, et qui est la conscience de ce rapport. Donc la subjectivité, elle est à pure. Je crois que c'est la subjectivité, elle est à pure. C'est la responsabilité, elle est à pure, puisque la subjectivité permet le point de vue de la responsabilité. Alors, c'est ça qui permet de comprendre, de poser la personne. Alors, vous avez, à partir de là, l'entrée dans une position qui est aussi très importante à bien saisir, qui est difficile, celle de Husserl. C'est la position de la phénoménologie. Que devient la personne dans la phénoménologie? Alors, voyons bien que ça avait été, que ce sera le grand problème du Saint-Père. Comment dépasser la phénoménologie pour retrouver le point de vue de l'ontologie dans la personne? La position du Saint-Père n'est pas une position phénoménologique. C'est une position qui se sert de la phénoménologie pour retrouver l'ontologie. Ça, c'est très net. C'est pour ça que c'est la personne là. C'est intéressant à saisir, c'est intéressant à voir. Je crois que c'est le gros problème dans lequel il se situe. Il se situe à l'intérieur d'une perspective phénoménologique, très nettement, en considérant que seule la phénoménologie, dans notre philosophie contemporaine, a un impact important, ouvertement, que la philosophie analytique n'est rien du tout à côté de la phénoménologie. Et on voit très bien cette perspective-là. C'est la philosophie analytique ne regarde plus l'homme. Alors que la phénoménologie remet en lumière l'homme. Et c'est ça qui intéresse le pape. Mais il ne faut pas rester dans la perspective phénoménologique, il faut découvrir l'au-delà. Alors, dans les idées, Husserl affirme, bien que la psychologie et les sciences de l'esprit soient atteintes par la mise hors circuit, il y a une phénoménologie de l'homme de sa personnalité, de ses propriétés personnelles et de son courant de conscience en tant qu'homme. Il précise que la conscience se présente sous différents modes d'appréhension et sous différents rapports, jouant à l'intérieur de la phénoménologie elle-même. La conscience, en effet, se présente une première fois en elle-même comme conscience absolue, une seconde fois dans son corrélatif, dans son corrélat, en tant que conscience psychologique, laquelle est désormais insérée dans le monde naturel. Elle est transmutée d'une certaine façon, et pourtant n'est pas dépouillée de son propre statut en tant que conscience. Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est à l'intérieur de la conscience, vous voyez, que va se situer le point de la phénoménologie de la personne, pour essayer de saisir à l'intérieur de la conscience des états différents. À ce point de vue-là, c'est un progrès par rapport à tout ce qui avait été dit avant. Il faut bien saisir ce progrès. Jusque-là, on identifie personne et conscience sans préciser. La phénoménologie va préciser. Attention, la conscience a des états différents. Et donc faites attention. En effet, dans la perspective phénoménologique de Husserl, l'homme pris comme être naturel, comme personne liée aux autres, par un lien personnel, celui de la société, est mis hors circuit, ainsi que tout être animé. Mais qu'en est-il du moi pur? Vous voyez la recherche. L'au-delà de la psychologie, c'est bien ça, c'est un des points de vue très importants de la phénoménologie. La phénoménologie lutte contre la psychologie. C'est l'intérêt de la phénoménologie. On ne veut pas rester dans le point de vue psychologique. Le point de vue psychologique est beaucoup trop matériel, si vous voulez, beaucoup trop immédiat. Mais qu'en est-il du moi pur? La réduction phénoménologique, c'est pour ça qu'il y a la réduction phénoménologique, le dépassement de votre conscience immédiate psychologique. Votre conscience psychologique, hein, c'est que vous écoutez un cours. Vous comprenez, vous ne comprenez pas sur toute chose, hein, mais vous écoutez un cours. Vous êtes dans cette situation phénoménologique d'écouter un cours. Bon. Et là, il s'agit de découvrir quelque chose de beaucoup plus important, ce qui est au-delà de cette conscience psychologique immédiate. L'homme pris comme être naturel, comme personne liée aux autres par un lien personnel, celui de la société, est mis hors circuit, ainsi que tout être animé. Et qu'en est-il du moi pur? La réduction phénoménologique fait-elle également du moi phénoménologique qui découvre les choses un néant transcendantal? Ce qui est clair, c'est que le moi pur, je ne sais pas si vous tapez pour le moi pur ou c'est psychologie, hein, c'est vrai, il faut réfléchir également. C'est dans la psychologie, donc dépassant. Donc, ce qui est clair, c'est que le moi pur n'est pas un vécu parmi d'autres. Que sa permanence n'est pas celle d'un vécu qui s'entête stupidement. Il semble être un élément nécessaire. L'identité absolue qu'il conserve à travers tous les changements réels et possibles des vécus ne permet pas de considérer en aucun sens comme une partie ou un moment réel des vécus mêmes. Autrement dit, en langage kantien, le « je pense » doit pouvoir accompagner toutes mes représentations. Ainsi, la mise hors circuit du monde et de la subjectivité empirique qui s'y rattache, laisse pour résidu un moi pur, différent par principe avec chaque flux du vécu. C'est très intéressant parce que vous voyez, hein, si on essaie de comprendre ce que c'est que l'induction philosophique, on voit que c'est la même chose. Il désire découvrir au-delà de la multiplicité, au-delà du changement, au-delà du point de vue psychologique immédiat, le résidu. C'est très analogue, c'est pour ça que c'est très intéressant. Et je comprends très bien que ça séduise un esprit aristotélicien. Parce que c'est essayé, vous voyez, c'est essayé par l'intériorité redécouvrir ce que nous saisissons par l'objectivité, par la contradiction. Et je crois que c'est ça qu'on doit comprendre. Parce qu'il faut essayer de saisir ce que c'est qu'en position philosophique. Alors, c'est par le point de vue de l'intériorité du vécu. Le vécu, c'est l'intériorité. Par le vécu, mais on ne s'arrête pas au vécu. Rester au niveau du vécu, c'est nécessairement être un niveau psychologique. Le vécu est toujours au niveau psychologique. La conscience du vécu, c'est le point de vue psychologique. Et c'est toujours le multiple. Donc vous n'arriverez pas à sortir de ça. Alors, le point de vue philologique essaie de saisir le résidu, l'au-delà de cette diversité. Comme nous, dans une perspective réaliste, à partir de l'expérience et de la multiplicité d'expériences, on essaie de saisir le principe de la source. Il y a quelque chose d'analogue. Il faut essayer de saisir. Cet analogue va-t-il aboutir ou ne va-t-il pas aboutir?
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.